Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche, de la famille d'Elimelech, et qui se nommait Boaz. Ruth, la Moabite, dit à Naomi, « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit, « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva par bonheur que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Et voici, Boaz vint de Bethléem, et il dit aux moissonneurs, « Que l'Éternel soit avec vous. » Ils lui répondirent, « Que l'Éternel te bénisse. » Et Boaz dit à son serviteur chargé de surveiller les moissonneurs, « À qui est cette jeune femme ?» Le serviteur chargé de surveiller les moissonneurs répondit, « C'est une jeune femme moabite qui est venue avec Naomi du pays de Moab. » Elle a dit, « Permettez-moi de glaner et de ramasser des épis entre les gerbes derrière les moissonneurs. » Et depuis ce matin qu'elle est venue, elle a été debout jusqu'à présent et ne s'est reposée qu'un moment dans la maison. Boaz dit à Ruth, « Écoute, ma fille, ne va pas glaner dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici et reste avec mes servantes. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de te toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase et tu boiras de ce que les serviteurs auront puisé. » Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre. Et elle dit, « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère ?» Boaz lui répondit, « On m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. » Et elle dit, « Oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolée, et tu as parlé au cœur de ta servante. Et pourtant, je ne suis pas, moi, comme l'une de tes servantes. » Au moment du repas, Boaz dit à Ruth, « Approche, mange du pain et trempe ton morceau dans le vinaigre. » Elle s'assit à côté des moissonneurs. On lui donna du grain rôti, elle mangea et se rassasia, et elle garda le reste. Puis elle se leva pour glaner. Boaz donna cet ordre à ses serviteurs, « Qu'elle glane aussi entre les gerbes, et ne l'inquiétez pas, et même vous ôterez pour elle des gerbes quelques épis, que vous la laisserez glaner sans lui faire de reproche. » Elle glana dans le champ jusqu'au soir, et elle bâtit ce qu'elle avait glané. Il y eut environ un épha d'orge. Elle l'emporta et rentra dans la ville, et sa belle-mère vit ce qu'elle avait glané. Elle sortit aussi les restes de son repas et les lui donna. Sa belle-mère lui dit, « Où as-tu glané aujourd'hui et où as-tu travaillé ? Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. » Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. « L'homme chez qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-elle, s'appelle Boaz. » Naomi dit à sa belle-fille, « Qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. » Ruth, la Moabite, ajouta, « Il m'a dit aussi, reste avec mes serviteurs jusqu'à ce qu'ils aient achevé toute ma moisson. » Et Naomi dit à Ruth, sa belle-fille, « Il est bon, ma fille, que tu sortes avec ses servantes et qu'on ne te rencontre pas dans un autre champ. » Elle resta donc avec les servantes de Boaz pour glaner jusqu'à la fin de la moisson des orges et de la moisson du froment, et elle demeurait avec sa belle-mère.
Je vous invite à la prière. D'abord, prions. Merci Seigneur pour ta parole. Merci de ce que cette parole est ta sagesse. Elle est là pour nous te montrer. Et nous prions Seigneur ce matin que tu nous permets, que tu ouvres nos cœurs pour qu'on te voie aussi dans ce passage et que tu nous enseignes Seigneur pour que nous ressemblions davantage à toi. Au nom de Jésus. Amen. Alors, nous sommes à notre deuxième prédication de quatre, Dieu voulant, dans ce petit livre qui est intitulé Ruth. L'histoire de Ruth est une des plus belles histoires de la Bible. Et la semaine dernière, nous avons parlé, donc premier chapitre de Ruth, et nous avons parlé de la providence divine. Cette façon dont notre Créateur, Yahvé, qui est à la fois souverain, tout-puissant et bon, bienveillant, intervient dans les détails de nos vies et de l'histoire humaine pour pourvoir à nos besoins quotidiens. Nous avons commencé de comprendre que le héros de ce livre est en fait Dieu lui-même. Aujourd'hui, nous allons rencontrer d'autres personnages, d'autres héros, mais le héros, avec H majuscule, c'est le Seigneur lui-même. Alors, à la fin de la prédication de la semaine dernière, nous avons dit que le Seigneur, l'Éternel, Yahvé, est en fait Jésus-Christ lui-même. C'est ce que le Nouveau Testament nous montre. Jésus nous montre la bienveillance du Père, parce qu'il est un avec le Père. À la fin de l'évangile de Luc, nous retrouvons Jésus sur le chemin d'Emmaüs, où Jésus explique à ses disciples, donc je cite, « Alors commençons par les livres de Moïse et parcourant parcourant tous ceux des prophètes, Jésus leur expliqua ce qui se rapportait à lui dans toutes les Écritures. » C'est Jésus qui est le grand héros, H majuscule, de toutes les Écritures, y compris du livre de Ruth. Dans les vies des héros, H minuscule de cette histoire, dans les circonstances et dans les événements que nous allons voir quelque chose qui va nous aider à connaître et à aimer Jésus-Christ davantage. Alors revenons au livre de Ruth. Au chapitre 1, nous avons fait la connaissance d'une famille tout à fait ordinaire, mais décimée par la famine et la mort dans les champs de Moab, loin d'Israël et le peuple de Dieu. Naomi est veuve. De plus, elle a enterré ses propres fils. Elle est seule, elle a faim. Son moral, de manière tout à fait compréhensible, est au plus bas. Où est le Dieu souverain? Naomi sait qu'il est bien là. Elle n'a pas abandonné la foi. Elle n'est pas devenue une sceptique. C'est lui, c'est le Seigneur, qui a fait sa vie bien amère. Oui, le Dieu qui est souverain, qui est bon, l'a conduit par là. Les voies de l'Éternel lui paraissent parfois étranges, voire sombres. Mais l'Écriture nous promet que même lorsque nous nous trouvons dans la vallée de la mort, la main du bon berger ne nous lâche pas, et son bâton demeure notre réconfort. Et à la fin du premier épisode, il y avait une lueur d'espoir, parce que Naomi n'est pas seule. Elle est accompagnée de sa belle-fille, une fille courageuse, une fille qui s'est attachée à elle, coûte que coûte, vaille que vaille, et aussi à Yahvé. Elle est devenue une véritable sœur en Christ pour Naomi. Et lorsqu'elles arrivent à Bethléem, qui veut dire la maison du pain en hébreu, il y avait de nouveau du pain en Juda. L'Éternel était intervenu en faveur de son peuple. Elles sont de retour à la maison au temps de la moisson de l'orge. Chapitre 2. Le narrateur de cette histoire historique a quelque chose à nous dire, donc au premier verset, un secret à nous dévoiler. Verset 1. Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Élimélec, et qui se nommait Boaz. Intéressant, n'est-ce pas? Sûrement pas un détail anodin que le narrateur nous livre. Jusqu'ici, dans cette histoire, tous les hommes ont succombé à la maladie et à la mort. Mais Boaz, lui, est puissant et riche. Il a sans doute un château sur ses terres. Une grande berline dans le garage, il s'habille bien. En plus, il est de la famille d'Élimélec, le beau-père de Ruth, le mari décédé de Naomi. Alors, il se peut que le nom Boaz signifie « en lui est la force ». Enfin, un homme, un vrai homme, puissant, riche, fort, masculin. Est-ce que vous avez envie de le rencontrer? Voilà, j'entends toutes les célibataires de l'église sur le bord de leur chaise. Oui, bien sûr, enfin, un vrai homme à l'église, hein, comme il le faut. Mais le narrateur nous laisse en suspense. C'est Ruth qui prend le devant de la scène. Verset 2. Ruth la Moabite dit à Naomi, « Je vais aller au champ pour glaner des épis derrière celui dont j'obtiendrai la faveur. » Elle lui dit, « Va, ma fille. » Elle partit et s'en va glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Cette femme, Ruth, ne chôme pas, Tout de suite, elle est debout, elle prend l'initiative. Ce n'est pas Naomi qui la pousse à s'activer. Et pas de temps à perdre. Il faut mettre du pain sur la table, sinon elles vont crever de faim. Alors glaner dans les champs, c'est quand même une activité dangereuse. C'est Bose qui va nous le dire plus tard. La femme qui glane est en proie à des hommes peu scrupuleux, violents, profiteurs. Ruth risque gros, mais elle y va quand même. Glaner, et le droit de glaner dans un champ au temps de la moisson, c'était un droit inscrit dans la loi de Dieu, la loi d'Israël. C'était un peu comme la sécu, comme les assidiques aujourd'hui. Sauf qu'il fallait quand même travailler pour y toucher. Dieu avait inscrit dans sa loi une protection pour les plus faibles. Parce que Dieu aime les plus faibles. Et sa loi demande qu'on prenne soin d'eux. Et nous verrons que Dieu, dans sa providence divine, choisit de prendre soin d'eux, pour la plupart, par les soins des autres. Verset 3. Ruth partit donc et se mit à glaner dans les champs derrière les moissonneurs. Il arriva par hasard qu'elle se trouvait dans un champ appartenant à Boaz, ce parent d'Élimélec. Intéressant, hein? Comme par hasard. Comme ça, quoi. Un concours de circonstances. À vue humaine, aléatoire. Oui, il y a du hasard dans la Bible. Est-ce de l'ironie? En tout cas, la suite de cette histoire nous montre qu'avec Dieu, le hasard n'est pas anarchique, mais soumis à un souverain qui est tout-puissant et bon. Rien n'échappe à son règne. Dieu dirige et gouverne toute créature, toute action, toute chose par sa sage et sainte providence. Et cela veut dire que Dieu est aussi à l'œuvre dans les événements, dans les circonstances particulières de nos vies. Tout comme il a été pour Ruth dans sa vie. Dieu n'est pas absent. Nos vies ne sont pas soumises à l'anarchie hasardeuse, à la roue de bonne ou de mauvaise fortune. Mais comment est-ce qu'on peut vivre cette réalité, que Dieu est souverain, que tous les détails de nos vies sont entre ses mains? Faut-il être capable de lire, de discerner la volonté de Dieu, la main de Dieu, ce qu'il est en train de faire dans nos circonstances? Dois-je aller glaner ou pas? Ou dois-je aller glaner dans ce champ ou dans un autre champ? Dois-je prendre cet emploi ou un autre? Dois-je déménager à Lille ou rester sur la région parisienne? Quels sont les signes indicateurs de la volonté providentielle de Dieu? En fait, la Bible ne nous invite pas à ce genre de raisonnement. Comme Ruth, Naomi et Boaz, n'essaie pas de lire, de discerner ce que Dieu est en train de faire. Ou de ne pas faire, bah, eux en fait ils se contentent tout simplement d'obéir à sa volonté révélée. Ruth prend soin de Naomi. Boaz, comme on va le voir, c'est le gentleman par excellence qui va prendre soin de Ruth. Chacun cherche simplement à vivre pour Dieu, selon le caractère de Dieu. Dans notre contexte, on parlerait de l'évangile, de mener des vies façonnées par les priorités de l'évangile, de Jésus-Christ, ou par les fruits de l'esprit. Dans les choix auxquels nous sommes confrontés dans la vie de tous les jours, nous avons besoin de sa sagesse. Que dit sa parole? Est-ce déconseillé ou pas? Est-ce que ce choix, cet emploi, ce déménagement, ce mariage, est-ce que cela va me permettre de mieux servir, mieux grandir en Christ ou pas? Nous ne pouvons pas deviner à l'avance la volonté providentielle de Dieu. D'une part, Dieu est souverain, il est le maître de l'histoire, le hasard n'est pas anarchique, mais soumis à son contrôle. Et d'autre part, Dieu nous invite à faire des vrais choix, aller de l'avant, avec l'intime conviction que nos destins sont entre les mains d'un Dieu qui est puissant et riche en bonté. Dans la providence divine, Ruth se trouva par hasard, dans le champ de Boaz. Et cela au moment de l'arrivée de ce même Boaz à Bethléem. Verset 4. Un peu plus tard, Boaz lui-même vint de Bethléem et salua les moissonneurs en leur disant « Que l'Éternel soit avec vous !» Ils lui répondirent « Que l'Éternel te bénisse !» Boaz, cet homme riche et puissant, est un employeur bienveillant qui qui prie pour ses employés, qui bénit ses employés, qui, eux, à leur tour, désirent que leur employeur soit béni de l'Éternel. Il n'y a pas beaucoup d'employeurs comme Bose dans ce monde. Tout cadeau de valeur vient de Dieu, et Bose le sait. Verset 5. Bose demanda au serviteur, « Qui est-il responsable des moissonneurs ? À qui est cette jeune femme ?» Alors Bose sait pertinemment qu'il ne l'a pas embauché lui-même. Alors est-ce que Bose s'inquiète de la masse salariale bourgeonnante de son entreprise agricole, ou est-ce qu'il est plutôt ébloui par la beauté d'une jeune femme qu'il ne connaît pas encore ? Le narrateur ne trahit pas les pensées de Bose, on ne sait pas. En tout cas, cette femme qui ne chôme pas, qui a humblement demandé la permission de glaner dans ce champ, attire l'œil de notre héros, vaillant et puissant, Bose. Alors, dans les versets suivants, nous avons le portrait d'un homme qui manifestement connaît bien le Seigneur, tellement la ressemblance familiale est grande. Verset 8. Bose dit à Ruth, « Écoute bien, ma fille. Ne va pas glaner dans un autre champ. Reste ici et suis mes servantes. » Verset 9. « J'ai interdit à mes serviteurs de t'ennuyer. Et si tu as soif, va boire aux cruches qu'ils ont remplies. » Bose lui offre du travail. Il invite à s'associer avec ses servantes. En faisant cela, il lui donne de la dignité, de la valeur, un statut. Il lui accorde sa protection physique. Il met à disposition tous les services du comité d'entreprise, la machine à café, la cantine. Voilà, Bose, c'est le véritable gentleman. Et Ruth est manifestement éblouie. Mais comment ça ? Comment ça ? Je suis une étrangère, un réfugié, un sans-papier, qui est au plus bas de l'échelle sociale. Au verset 10, Ruth parle de grâce ou de faveur. C'est ce qu'elle cherchait, on a vu au verset 2. La grâce, la faveur de quelqu'un, cette faveur imméritée, la bonté. Voilà, elle l'a trouvée. Et plus qu'elle n'aurait jamais pu imaginer. Bose, lui, ne voit pas les choses de la même manière. Il a déjà entendu parler de cette femme extraordinaire qui a quitté son pays, quitté sa famille, qui a loyalement accompagné sa belle-mère, qui s'est convertie au Dieu vivant et vrai de la Bible et qui vient de débarquer dans ce nouveau monde. Bose a une très haute opinion d'elle. Ruth est digne d'être bénie. Elle est digne de trouver la protection de Dieu, ce Dieu sous les ailes de qui elle est venue chercher un refuge. Verset 12. Que l'Éternel te récompense. Il prie pour Ruth. Il la confie au tendre soin de l'Éternel, le Dieu qui est à la fois souverain et bon. Mais Dieu est déjà à l'œuvre. Il est déjà en train de répondre à cette prière. Sa providence divine est incontestable. Dieu est en train de prendre soin de Ruth. Et par Ruth, Naomi aussi. Il n'y a pas de miracle, on ne voit pas de miracle dans ce texte. Dieu n'envoie pas du pain du ciel. Non. Comme par hasard, Ruth s'est trouvée dans le champ de Bose, de cet homme qui connaît la loi de Dieu, et plus que la loi, qui connaît le cœur de Dieu. Un cœur qui bat pour les faibles et les exclus. Un cœur qui bat pour ceux qui viennent trouver protection sous ses ailes. La providence bienveillante de Dieu et les actions, les décisions, les actes des hommes et des femmes qui cherchent sa face sont intimement liés. Dans sa souveraineté, Dieu se sert des hommes et des femmes qui l'obéissent pour pourvoir aux besoins des autres. La bienveillance de Bose n'est pas encore à son terme. Il invite à manger. C'est le premier rendez-vous, en fait, en quelque sorte. Manifestement, cet homme puissant, vaillant, riche, pieux, qui, comme par hasard, de surcroît, est célibataire. Cet homme sait comment se comporter avec les femmes. J'ai dit la semaine dernière que le livre de Ruth n'est pas un manuel d'instruction sur comment trouver un mari ou une femme, ou comment faire la cour à une fille. C'est vrai, ce n'est pas d'abord cela. Cela dit, les Juifs, encore aujourd'hui, considèrent ce livre comme un des écrits de la sagesse. Dans leur Bible, l'Ancien Testament, ils le placent juste après les Proverbes. Et nous verrons en janvier que pour Bose, Ruth est la femme de Proverbes 31, le modèle de la femme de grande valeur. Et Bose est un homme remarquable, lui aussi. Et nous les hommes, que l'on soit célibataire ou non, serait sage de suivre son exemple. Dans une société qui considère le christianisme, l'Église, comme un truc simplement pour les femmes, souvent que pour les vieilles femmes. Nous voyons ici un homme dont le cœur reflète celui de Dieu. Un homme qui vit sa foi de manière convaincue, sans trahir, un tant soit peu, sa masculinité. Au contraire, à force de faire ça, il devient un homme ô combien attractif. On va demander aux femmes après. Un homme qui prend l'initiative, qui protège du mal. Un homme qui donne généreusement, qui pourvoit aux besoins des femmes. Il est également un homme qui sert la femme de manière humble. Oui, c'est vrai, il la sert. Verset 14. Bose lui dit, « Approche-toi et viens prendre un morceau de pain. Trempe-le dans la vinaigrette. » Alors, elle s'assit à côté des moissonneurs. Et Bose lui offrit des épis grillés. C'est lui le serveur, lui le chef qui le sert, qui la sert. Il est l'arrière-grand-père de David, l'ancêtre de Jésus-Christ, et la ressemblance familiale est flagrante. Lui, le chef, le propriétaire, s'incline et sert Ruth, la plus humble. Et Ruth, elle doit être aux anges. Son cœur doit palpiter. Qui est ce gentleman dont la générosité, la force dépasse de loin celle de M. Darcy ou je ne sais pas quel héros de la littérature romantique. À la fin du verset 14, nous lisons « Elle en mangea à satiété et garda le reste. » C'est la fin de la famine. Ruth vient de manger son meilleur repas depuis belle lurette et elle garde les restes, sans doute pour sa belle-mère. Elle est bénie. Dieu est intervenu en faveur de son peuple, on l'a vu au chapitre 1. Il est intervenu en faveur de Ruth et de Naomi aussi. Même si Bose n'en est pas conscient, il est le moyen de la providence divine. Dieu est en train de prendre soin de son peuple par sa bonté, son obéissance, par la générosité de Bose, un homme qui le craint. Bose enchaîne en disant, le narrateur enchaîne plutôt. Quand elle retourna pour glaner, Bose ordonna à ses serviteurs. Permettez-lui aussi de glaner entre les gerbes sans la rabrouer. Laissez même tomber exprès pour elle quelques épis des javelles et abandonnez-les pour qu'elle puisse les ramasser. Et ne lui faites pas de reproches. La générosité de Bose ne connaît pas de limite. Elle dépasse largement les provisions de la loi. Bose comprend que l'ultime seigneur de la moisson est l'Éternel lui-même. Sa terre lui a été donnée par l'Éternel. Ses biens lui ont été donnés par l'Éternel. Tout ce qu'il a, il a reçu comme un cadeau de la part de l'Éternel. Et c'est pour ça que Bose fait de même. Il donne généreusement. C'est grâce sur grâce. Ruth rentre à la maison. Elle rentre ce soir-là avec 40 litres d'orge. C'est une quantité immense qui a dû peser très très lourde. Elle est sortie le matin dans l'espoir de gagner une maigre pitance, peut-être 2-3 euros. Mais elle est revenue avec l'équivalent de 2 fois le SMIC mensuel. Elle a gagné de manière tout à fait légale, en une journée. Elle est comblée. Au verset 19, les femmes se mettent à parler. Donc il y a beaucoup de conversations entre femmes dans cette lettre. Elles se mettent à parler et Naomi est quelque peu surprise par les 40 litres d'orge. Sa belle-mère lui demanda « Mais où donc as-tu glané aujourd'hui? Dans quel champ as-tu travaillé? Que l'Éternel bénisse celui qui a eu pour toi tant d'attention. » Peut-être sans le savoir, Bose, par son comportement bienveillant, a gagné le cœur et l'approbation de sa future belle-mère. C'est franchement un homme doté d'une grande sagesse. Les futures réunions familiales à Noël et Pâques vont bien se passer. Alors, Ruth raconta à sa belle-mère, chez qui elle avait travaillé, et lui apprit qu'il s'appelait Boaz. Naomi dit à sa belle-fille, « Que l'Éternel le bénisse, l'Éternel a cessé d'être bon envers nous les vivants, comme il a été envers ceux qui sont morts. » Naomi comprend que ces 40 litres qui vont sauver sa vie et la vie de sa belle-fille sont un cadeau de Dieu. L'Éternel n'a cessé d'être bon. Le mot traduit ici par « bon » ou « bonté », « bienveillance », « fidélité » selon les versions différentes, c'est un mot qui caractérise, qui explique le caractère de notre Dieu. Il est bon, il est bienveillant, il est plein de grâce, de miséricorde. Il leur a montré cette grâce par son serviteur Boaz, cet homme qui le suit, qui humblement cherche à mettre en pratique ses voies, qui à son échelle lui ressemble, qui ressemble à Jésus-Christ. Puis Naomi ajouta, « Cet homme est notre parent proche, l'un de ceux qui ont le devoir de rachat. » Naomi fait allusion à ce que l'Ancien Testament appelle le droit ou le devoir de rachat ou de rédemption. Dans sa loi, Dieu, dans sa sagesse, avait instauré un système selon lequel un parent proche avait le droit et le devoir de venir au secours d'un autre parent. Encore une fois, Dieu protège les pauvres et les déshérités. Si un parent s'était endetté et s'était vendu pour payer ses dettes, le Rédempteur pouvait le racheter. Cela valait également pour les terres qui devaient rester dans la même tribu. Et si une veuve se trouvait sans enfant et le défunt sans descendance, le Rédempteur devait épouser la veuve et le premier fils serait considéré comme le fils du défunt. Et comme par hasard, Boaz est un parent proche. Le narrateur ne nous dit pas à ce stade ce qui est dans la tête de Naomi. Il laisse plutôt libre cours à notre imagination. Le rachat de Ruth est donc une descendance pour Naomi. Elle qui a enterré ses propres fils se profile à l'horizon. Du moins, c'est ce que Naomi espère. Oui, Naomi l'espère. Elle qui veut qu'on l'appelle amère. La vieille femme amère commence à espérer. Son cœur a retrouvé la joie, grâce à Dieu, grâce à son Rédempteur. Cette histoire est un microcosme de la grande histoire de Dieu, la grande histoire de la rédemption, de la restauration, de la bénédiction d'un monde et d'une humanité maudit. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Nous étions perdus, loin de lui, dans le pays de Moab, adorateurs de faux dieux. Mais dans sa bonté, Dieu nous a fait revenir vers lui. Il nous a bénis par l'action d'un Rédempteur, d'un Boaz en plus grand, en plus merveilleux, Jésus-Christ lui-même. Nous étions des étrangers, sans droit, mais en Jésus-Christ, tu as fait de nous ses enfants. Il nous a donné de la dignité, de la valeur. L'histoire de Ruth et de Boaz nous invite à faire confiance à Dieu. Il est souverain, il est bon, il est fidèle, il est bienveillant, il est plein de grâce. En son Fils, il nous a donné un Rédempteur qui prend soin de nous, qui nous sauve du mal, du malin, de la mort. Notre avenir est sûr. Notre espérance est fondée. Fixons nos yeux cette semaine sur lui, sur Jésus. Il est souverain, il est bon. Et soyons aussi à notre échelle comme Boaz l'a été pour Ruth, des gens qui exemplifient cette bonté, cette fidélité, cette grâce, cet amour. Exerçons cette bienveillance envers tous et surtout envers les plus humbles. Là où Dieu, dans sa souveraineté providentielle, nous place. Je vous invite à la prière. Prions. Notre Dieu, notre Père, nous te louons parce que tu es digne de louange. Tu es le Dieu souverain. Rien n'échappe à ton contrôle, à ton gouvernement. Et en même temps, Père, tu es le Dieu qui est bon, qui est bienveillant, qui est fidèle, qui ne change pas. Et Père, ce matin, nous voulons nous confier à tes tendres soins. Tu es digne de confiance et nous voulons mettre notre confiance en toi ce matin. Aide-nous à mettre notre confiance en toi cette semaine. Et Seigneur, Père, nous voulons te demander de nous aider à te ressembler. Change-nous par ton esprit, par ta parole, pour que nous soyons des enfants qui ressemblent à ton Fils, notre Rédempteur. Au nom de Jésus. Amen.